Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bernard Abouaf au micro, on se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive, et nous sommes en ligne avec Ravéli Lemel. Rav Lemel, bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Lemel, vous allez nous parler de la Shira. Et en fait, la Shira, il y en a deux. Il y a celle des Bnei Israël et il y a celle de Myriam. Qu'est-ce que veut nous dire la Torah? Pourquoi deux? Pourquoi, peut-être même on peut poser la question, pourquoi séparer? Et quel lien on peut faire avec l'actualité?
C'est vrai que vous avez posé ici pas mal de choses. Alors, c'est vrai que on va repartir un petit peu. Donc, le peuple d'Israël s'est retrouvé devant cette fameuse mer des joncs, rappelons-nous, hein, c'est Yam Souf, la mer des joncs, et non pas la mer rouge, comme beaucoup de personnes nous le disent. Et lorsque les Égyptiens vont disparaître dans les flots, alors le peuple d'Israël donc va exprimer ce chant extraordinaire de la Shira qu'on dit dans. Tous les jours ce chant dans la tefila, dans la prière. Et puis après, on va voir que Myriam eh bien, va reprendre toutes les femmes du peuple d'Israël avec les tambourins. Et ils sortent avec les tambourins, avec des danses. Et elle recommence un chant. Et ce qui est très curieux, c'est que dans ce chant-là, eh bien, elle cite un premier verset qui a été dit au début. Alors, c'est le suivant en hébreu, Shiru Lachem Kigao Ga'a, Suzor Boromo Vayam. Littéralement, chantez à Dieu, car il est extrêmement grand, Sus Vororbo, le coursier et son cavalier, le cheval et son cavalier, il les a précipités dans la mer. Et au tout début de la Shira, la Shira commence aussi de la manière, alors les enfants d'Israël et Moshe chantèrent ce cantique-là, et ils dirent « Ashir al Hashem, chantez pour Dieu, Kigaoga, car de nouveau la même manière, il est souverainement grand, Sous Vororbo, le coursier et son cavalier, il les a projetés dans la mer. » Alors il faut essayer de comprendre un petit peu, il faut croire qu'il y a ici quelque chose de capital, puisque c'est ce point commun que va chanter les enfants d'Israël, et puis par la suite Myriam avec les femmes du peuple juif. Qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter ici? Qu'est-ce que la Torah veut-elle nous dire? Alors, la Shira, évidemment, ce sont des dizaines, des centaines d'explications. On va essayer de reprendre un petit peu ce qui se joue ici. Tout d'abord, rappelons-nous que le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte. Il vient de sortir d'Égypte et la véritable libération, il ne la vivra que lorsqu'il verra que ceux qui le poursuivent, c'est-à-dire que ceux qui désiraient le ramener en Égypte, puisque les Égyptiens les poursuivent quand même, eh bien, ne pourront plus jamais les rattraper. Et nos maîtres nous expliquent, et c'est comme ça que développe entre autres Rav Tzadok HaKohen, ils nous disent qu'il y a, vous savez, deux grands concepts lorsque l'on parle de l'univers. Il y a ce que l'on appelle Maase Bereshit et Maase Merkava. Traduction, Maase Bereshit, l'action de la création, et puis Maase Merkava, l'action de ce qu'on appelle Merkava. Alors Merkava, pour l'instant, on ne va pas le traduire, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit, mais Maase Bereshit, c'est quoi? Ce sont les 10 paroles par lesquelles l'univers a été créé. Basama Amarot, par les 10 paroles, l'univers a été créé. Et nos maîtres nous expliquent, ils nous disent que la sortie d'Égypte avec les fameuses 10 plaies est en correspondance avec ce que l'on appelle, en effet, Maase Bereshit. Pourquoi? On va essayer de pénétrer un petit peu plus à l'intérieur de ce sujet qui est passionnant. Rappelons-nous que le pharaon, lorsque Moshe vient le voir et lui dit « Laisse partir les enfants d'Israël », il va s'opposer complètement. Il va lui dire « Qui est ce Dieu pour que j'écoute sa voix? Je ne le connais pas et de toute façon, je ne renverrai pas les enfants d'Israël. » La première des choses que le pharaon dit, c'est quoi cette idée d'un Dieu créateur de l'univers? C'est-à-dire ce concept qu'il y a eu en effet un Bereshit, hein, entre guillemets bien sûr, parce que c'est légèrement plus complexe à traduire, hein, au commencement, il y a une origine à tout, eh bien c'est quelque chose que je remets totalement, complètement en cause. Et par la suite, évidemment, il continue à dire, et même s'il y a un créateur, il n'est plus dans sa création, et même s'il est dans sa création, de toute façon, il ne peut plus intervenir pour changer le cours de l'histoire. Et donc, les Makot, les 10 plaies vont être là pour d'abord réinstaller cette idée, oui, il y a un Dieu créateur. Non seulement il a créé l'univers, il le dirige pleinement, et il peut intervenir comme il le désire à l'intérieur de cet univers. Ça, c'est en effet Maaseh Bereshit qui est là et qui est, j'ai envie de dire, revalidé à travers donc, le moment de la sortie d'Égypte. Et puis après, il y a ce qu'on appelle Maaseh Merkava. Alors, de quoi s'agit-il? Tout d'abord, il y a un texte qui nous dit que Ra'ata Shifra Alayam, une simple servante, a vu sur la mer, au moment de l'ouverture de la mer, ce que le prophète Ézéchiel lui-même n'a pas réussi à voir. Alors, de quoi il s'agit? On sait que Ézéchiel, justement, est un prophète parmi les plus grands qui va voir à un moment ce qu'on appelle Maaseh Merkava. Maaseh Merkava, eh bien, dit Rav Tzadok HaKohen, le mot Merkava vient de la racine Rochev. Rochev, c'est chevaucher. C'est littéralement l'action des univers dans lesquels on chevauche. De quoi s'agit-il? Rav Tzadok HaKohen nous dit que, eh bien, chevaucher, c'est quoi? C'est avoir un élément qui est en dessous de nous et que l'on dirige pleinement, à l'image d'un cavalier qui a sous lui, sa monture. Le cavalier, il est rochev, il est là et il domine sa monture, il est sur elle, et il la dirige là où il veut. Et la seconde dimension, au fond, sur laquelle il fallait travailler, j'ai envie de dire, c'est sur l'idée que le monde a peut-être été créé par Dieu, Maaseh Bereshit, mais il y a dans l'univers des dirigeants. Il y a des personnes qui le dirigent, il y a des pharaons, il y a des potentats, il y a des rois, il y a des présidents, il y a ce que vous voulez qui sont là et qui vont diriger l'univers. Et alors, c'est là où en effet la seconde leçon, qui est fondamentale, s'inscrit au moment de cette ouverture de la mer. Sous Vororbo. Rashi nous dit la puissance de Dieu, Gaa, son orgueil, sa dimension incroyable, c'est qu'il a été capable de faire tomber le cheval et son cavalier à l'intérieur de la mer. Et bien sûr, on s'interroge, on dit « waouh ». On exprime la grandeur de Dieu parce que c'est le cheval et le cavalier qui tombent ensemble dans la mer, et c'est ce que Myriam reprend. Elle dit aux femmes « nous allons chanter à Dieu car sous Vororbo ». Donc, il faut croire qu'il y a quelque chose ici de capital. Explique Rav Tzadok HaKohen, oui, en effet. Le sous, c'est ce peuple, c'est cet univers qui est là, et le rochev, celui qui est le cavalier, c'est le dirigeant. Et la posture du cavalier sur le cheval, c'est en effet cette idée de celui qui dirige tout, qui pense qu'il dirige tout, qu'il est dans la maîtrise de tout, qu'il est en train de maîtriser, parce que si le cavalier est sur le cheval, c'est qu'il est en train de diriger le cheval. Et en vérité, pas du tout. Dieu prend et le cavalier et le cheval ensemble et il les met dans la mer. Traduction, il est en train de nous dire, sachez que celui qui pense diriger ne dirige rien. Il est à l'image d'une poupée, il est une forme de pantin qui est là et qui dépend pleinement de la volonté du créateur de l'univers. Derrière ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas, de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, il y a en amont le créateur de l'univers qui dirige tout et qui au fond, fait en telle sorte que l'histoire se déroule suivant ses plans qui eux-mêmes sont définis par la posture qu'a le peuple d'Israël dans l'histoire. Parce que rappelons-nous qu'en effet, comme le dit le texte, « Dama le malamim rassache que ce qui se passe en haut, c'est-à-dire ce que Dieu décide de mettre en place dans l'univers, mimra provient de toi, provient de nous. » C'est ce que le peuple d'Israël développe, met en place, qui va amener à ces mouvements de dirigeants qui eux-mêmes sont contrôlés pleinement et totalement par le créateur de l'univers. Alors, Tzadok HaKohen nous explique qu'il nous dit qu'au fond, c'est là où va se situer véritablement la libération du peuple juif. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël est pleinement libre lorsqu'il se rend compte que ceux qui pensent diriger l'histoire ne dirigent rien. Lorsqu'il réalise qu'il est pleinement libre parce que son histoire qui va être lié évidemment à toutes les nations qui l'entourent, eh bien, il en a la maîtrise pleine et entière. Ce n'est pas tel et tel dirigeant qui fera les choses. C'est lui, le peuple juif, qui agit et qui, à travers cela, génère dans les mondes spirituels le mouvement que Dieu va donner à celui qui croit être le dirigeant comme le cavalier qui dirige son cheval, mais les deux en même temps tombent dans l'eau, comme pour dire, eh bien, sache que tous tes mouvements, ils dépendent pleinement du créateur de l'univers. Et c'est vrai qu'il y a ici quelque chose de fondamental et qui est très difficile, en même temps tellement facile à comprendre. C'est-à-dire de réaliser que tout dépend de l'action du peuple d'Israël, que toute l'histoire qui se déroule, eh bien, elle est fonction de la manière dont le peuple juif va se comporter. Comme c'est marqué d'ailleurs dans le verset, « Lev melachim vesarim beyad Hashem ». Le cœur des melachim, des rois vesarim et des princes sont dans les mains de Dieu. C'est lui qui décide, mais fonction de ce que nous faisons, nous. Alors, vous allez dire, mais c'est difficile à intégrer. Mais je vous pose une question. Il y a 5 ans, 6 ans, si je vous racontais l'histoire du Covid, si je vous racontais l'histoire de l'univers qui s'arrête, pendant quasiment 1 an, tout s'arrête de partout. On dit, mais ce n'est pas possible, c'est inimaginable. De la même manière, si on avait raconté à nos arrière-arrière-grands-parents ce qu'on vit aujourd'hui avec la technologie, ce n'est pas possible, c'est inimaginable. Notre difficulté à nous, c'est que comme on ne l'a pas encore vécu, comme on ne le voit pas encore réellement, alors on pense que ce n'est pas dans le domaine du possible, alors que c'est là où en vérité tout se joue. Et c'est pour cela qu'on dit que véritablement le lien réel, authentique, entre le peuple d'Israël et son créateur, se construit au moment de Yam Souf, au moment où cette mer des gens va s'ouvrir, au moment où, en effet, ils comprennent que sous ce Berorvo, que tous ceux qui les poursuivaient, que tous ceux qui agissent d'une manière X, Y ou Z, en vérité, sous ce Berorvo, Rababayam, c'est le créateur de l'univers qui les dirige et qui les amène là où ils doivent aller, fonction du projet qui lui-même, rappelons-nous, est déterminé par le mouvement du peuple d'Israël. Voici un petit peu quelque chose qui, à mon sens, en tout cas très intéressant, surtout dans cette période dans laquelle on est en train de se dire, bon, ben, il y a X, Y, telle présidente, dirigeante qui a dit que, en vérité, dans sous ce Rorvo, derrière ça, il y a autre chose qui se joue. Dans un monde dans lequel on aime bien s'inscrire dans la logique politique ou autre, c'est peut-être pas simple de comprendre qu'en vérité, tout dépend de la dimension spirituelle, mais c'est peut-être cette leçon que nous devons non seulement connaître, mais inscrire profondément pour qu'évidemment elle puisse avoir un impact sur la totalité des mouvements de notre existence.
Alors là, magnifique, hein. Magistral. L'idée, c'est pas de faire tomber l'un et l'autre, non, fais-les tomber les deux en même temps. Magnifique. Puis effectivement, pourquoi c'est ça qu'on garde comme c'est souvent d'ailleurs qu'on se pose la question. Pourquoi c'est ce truc-là qui a été gardé? Magnifique. Ravi Lulemel, on a pris une très belle leçon ce soir avec vous. Très enrichissante. Et je vous remercie. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir, Rav Mordechai.
Shalom, shalom, Shabbat shalom. Shabbat alors, shalom à tout le monde.
Shabbat shalom. On va parler, on va être très socialiste ce soir. On va parler de liberté et de pain. Alors en fait, non, on n'est pas du tout socialiste. D'ailleurs, si on a envie de l'être, on le fait. Mais là, nous, on parle de Torah. Et la Torah lit les deux, en fait. Donc qu'est-ce que vous voulez nous dire à ce sujet?
Alors dans la paracha, on voit un paradoxe. Les Bnei Israël vont faire un saut de géant en termes de émouna, en termes de foi, puisqu'ils vivent la sortie d'Égypte et ils vivent l'anéantissement de l'armée égyptienne dans un épisode extraordinaire qui est l'ouverture de la mer Rouge et qui donc provoque l'anéantissement de cette armée et la libération finale des Juifs. Voilà, ils ont vu l'anéantissement des Égyptiens. Le Midrash dit même que la mer charriait les corps pour que les Bnei Israël ne disent pas de la même manière que nous on est sortis de l'autre côté, bah, peut-être que les Égyptiens sont peut-être ressortis de l'autre côté et qu'ils vont nous courir derrière. Donc ils ont vécu cet anéantissement. Mais d'un autre côté, le Midrash nous dit que la plus petite servante, la plus humble des servantes, a vu ce que le prophète Yéhézkiel, qui a eu accès à des niveaux de prophétie absolument extraordinaires, n'a pas vu. Et pourtant, elle est restée une servante. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, les Bnei Israël sortent de la mer Rouge Et là, ils ont un problème. Ça fait 61 jours, 61 repas, donc une trentaine de jours, un peu plus d'une trentaine de jours, qu'ils mangent les réserves qu'ils ont emmenées d'Égypte. Et là, il n'y a plus rien à manger. Donc, ils crient, ils demandent du pain. Ils demandent du pain. Et alors là, il y a l'épisode de la manne. Et alors, dans l'épisode de la manne, on va voir quelque chose d'extraordinaire, c'est que Dieu va demander à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu va le faire, de garder une certaine quantité de manne qui sera introduite dans le Haron HaKodesh, dans l'armoire sainte. Et cette portion de manne, le prophète Jérémie, quelques centaines d'années plus tard, s'adressera aux Israël, leur disait « Pourquoi vous n'étudiez pas la Torah ?» Et les Israël vont lui répondre « Mais on travaille, on ne peut pas, on est occupé. Comment on va être mis de parnasse? Si on étudie, on ne peut pas avoir de parnasse, on n'a pas le temps. » Alors il leur dit « Vos ancêtres ont mangé sept mannes, il leur montre, d'accord ? Et il y a beaucoup d'envoyés pour Hachem. » Donc il y a là ici une équation qui est l'équation éternelle avec une inconnue, qui est l'équation éternelle pour chacun d'entre nous. Quelle est la dose finalement de Ishtadlout, d'investissement que je dois développer pour ma parnassa, tout en ayant en tête le fait que je suis juif. Je fais partie d'un peuple qui a reçu la Torah, qui est né il y a 3338 ans, le jour où il a reçu la Torah. Et cette Torah, nous devons l'étudier, et nous devons la vivre, et nous devons l'imprégner en nous. Comment ça marche? Quelle est la conjugaison? Où se trouve la conjugaison entre les deux? Alors, il y a une gemara qui est très intéressante qui se trouve dans le traité Brachot. Là-bas, on nous rapporte une discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Ishmael, il dit on doit être capable de conjuguer les deux, sans préciser le dosage. Et puis Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit non, la Torah. Et là, la gemara, elle dit quelque chose de très intéressant. Elle dit beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael, ça a marché. Et beaucoup comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle ne dit pas le verbe faire. Alors, on peut ici trouver une petite précision. Beaucoup ont voulu être comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais ça ne peut pas, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et lui, il avait un certain niveau. D'accord. Donc, lui proposait un modèle qui était un modèle de Messirut Nefesh, d'abnégation absolue pour l'étude de la Torah, qu'il a pu expérimenter lui-même avec son fils pendant les quelques années qu'ils ont passées dans une grotte cachée pour ne pas se faire attraper par les Romains. Il n'en reste pas moins que cette Gemara ne fait que poser le problème, mais ne le résout pas. Pourquoi ? Pourquoi la Gemara qui se trouve dans le traité Brachot, au début du sixième chapitre de traité Brachot, qui traite des bénédictions, en fait ne résout pas réellement le problème ? La Gemara, elle continue après. Elle dit, vous savez, les premières générations, elles avaient l'habitude de donner le maaser, c'est-à-dire le dixième, la dîme qu'on doit donner. Elles le donnaient vraiment avec joie, avec empressement. Alors que les générations d'après se sont arrangées pour contourner la loi et ne pas se retrouver dans l'obligation de donner le maaser. Et la Gemara nous fait un clin d'œil. Même ceux qui travaillaient et qui nous disaient « Bon, voilà, je donnerai du maaser, je ferai des bisous », ben même ceux-là, ils ont fini par tout laisser tomber. La Gemara, en fait, ne résout pas ce problème. En fait, la Gemara, le Shulchan Aruch, le Rambam, donnent des indications sur la manière dont on doit gérer son temps. Mais finalement, ils ne donnent pas de recette miracle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est au cœur ici de la problématique de la Emouna. Je sais que ce que je fais pour gagner mon argent ne sert à rien. Parce que ce que Dieu a décidé, il me le donnera que j'agisse ou que je n'agisse pas. Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans le Derech Hashem, explique « L'Aishtadlout, c'est un echéar, c'est une nécessité, avalilo bo'ila, elle ne sert à rien. » Comment pousser quelqu'un à investir dans une chose qui ne sert à rien ? Comment on peut dire une chose pareille ? La réponse est la suivante. On est dans un monde que nos sages appellent le monde de la Asiya, c'est le monde de l'action. On doit faire des choses. Alors, on habite ici en Israël, on a un gouvernement, on a une armée, on a des impératifs stratégiques, politiques, économiques. Chacun, à titre individuel, dans le monde, que ce soit en Israël ou ailleurs, a des impératifs économiques, il doit y faire face. Mais il doit avoir conscience du fait que ce n'est pas ce qu'il fait qui lui procure sa parnassa. Il y a une décision qui est prise à Rosh Hashanah, et c'est en fonction de cette décision et en fonction de la manière dont on applique les mitzvot que la parnassa nous est donnée. Nous sommes dans le monde de l'action, nous sommes tenus de faire un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas ce que nous faisons qui fonde, qui organise ce que nous allons recevoir. Il y a donc ici un paradoxe. Et ce paradoxe, il est géré à partir du moment où un individu consacre une partie de son temps à étudier la Torah. Alors, dans quelle dose, à quelle manière, à quel moment de sa vie, Il y a autant d'écoles que de, finalement, que de maîtres à penser. Mais l'idée est toujours la même. Asé Torah Trakeva. Fais de ta Torah, de l'étude de la Torah, le pivot de ta journée. Fais de la Torah l'axe central. L'étude de la Torah, fais de l'étude de la Torah l'axe central de ta journée, de tes énergies. Et choisis une parnassa, choisis un métier qui te laissera du temps libre et l'esprit libre pour que tu puisses te consacrer à l'étude de la Torah. C'est-à-dire que ce qu'on te demande, en vérité, c'est d'être un ben Torah, un enfant de la Torah, qui se consacre à tout ce à quoi doit se consacrer un homme. C'est-à-dire d'abord avant tout à l'étude de la Torah, à prier, et ensuite à subvenir à ses besoins. C'est tout à fait fondamental. Alors, c'est intéressant parce que nous, les Français, on a un problème avec ça. Vous voyez, les Américains, par exemple, à Lakewood, si vous allez à Lakewood aux États-Unis, en fait, ils ont reconstitué une espèce de super shtetl, mais à la mode américaine. Et en fait, vous avez une ville, par exemple, à Lakewood, où en fait, tout fonctionne comme ça en harmonie. Les gens travaillent, mais les gens étudient. Et le soir, les bêtes à midrash, ce soir, les centres d'études sont pleins. Les gens passent à la maison pour dire bonjour aux enfants. Ils font des devoirs, ils font ce qu'ils ont à faire, et après, ils vont étudier. Ça veut dire que ce modèle, il existe. Et même ici en Israël, ce modèle existe. Ce modèle de gens qui consacrent du temps à l'étude, au travail. Et en fait, la raison pour laquelle il n'est pas clairement calibré, je vais terminer sur ça, c'est parce qu'en fait, c'est lié à l'aïmouna. Et l'aïmouna, c'est quelque chose qui évolue. L'aïmouna, la foi, le bitachon, la confiance en Hachem, c'est quelque chose qui évolue. Un individu évolue. Il y a des principes, mais ce principe, il est évolutif avec la capacité d'évolution et d'adaptation de l'individu. Et c'est la raison pour laquelle on nous a donné une espèce de cadre. On ne doit pas préciser fondamentalement la manière dont tout ça doit être organisé. C'est livré finalement à la volonté de chacun d'entre nous et finalement à sa émouna et à sa foi. Voilà ce qu'on peut dire sur le sujet. Mais il y a encore évidemment beaucoup, beaucoup à dire sur le
ça sujet. Ça peut durer.
Le cadre.
Il y a un principe que disent tous les rabbinim, que vous dites, c'est étudie ne serait-ce que quelque chose le matin, comme ça, la Torah considérera que quand tu vas au travail, tu y vas pour ton étude. C'est faire en sorte que ton travail soit inclus dans ton étude. Et pour ça, comme vous disiez, il y a des doses, on n'est pas tous des grands lames d'anime comme vous. Fais un peu le matin, comme ça, après, c'est considéré, c'est compté, comme le travail est compté comme étant là pour aider l'étude. Rav Mordechai Bitton, je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gué. Bonsoir Rav Gué, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Alors, Rav Gué, vous voulez parler aujourd'hui de la principale qualité de Moshe Rabbeinu. C'est pas un chef militaire, il a libéré le peuple juif, mais c'est pas ça son truc. La plus grande qualité de lui et de Aaron, d'ailleurs, c'est la modestie. Et vous voulez nous inviter à réfléchir sur le fait que, au final, tous nos maîtres ont ce trait de caractère, c'est la modestie.
Effectivement, dans le pasouk, dans la Torah de cette paracha, on nous parle d'anachnouma. Que sommes-nous ? Il ne trouve même pas d'autres termes que de dire mais qui nous sommes ? Nous sommes absolument rien. David Ameler dit de lui qu'il est tolaad veloish, qu'il est un ver de terre. Avram dit je suis poussière et cendre, anochi afar vaefer. Tous nos grands, les grands de notre peuple, plus ils sont grands et plus ils sont humbles. C'est vrai que le Midrash, la Gemara aussi, fait remarquer que Atem Hameat Mikol Amim, vous êtes le plus petit des peuples, explication midrashique, vous êtes ceux qui vous, Maatim et Atmechem, vous vous rendez petit. C'est-à-dire même lorsque je vous donne de la grandeur et je vous donne du pouvoir, vous êtes toujours en train de vous dire moi, qui suis-je et cette humilité est la marque. De la grandeur, un des signes de la grandeur. Alors c'est vrai que Moshe Rabbeinu va très loin, il pousse au maximum cette dimension, Anav Mikol Adam. Évidemment, c'est parce qu'il est proche d'Hachem, proche de Dieu, il voit très bien combien l'homme est petit par rapport à la grandeur de Dieu, mais n'empêche que je voulais ici vous donner une illustration de la modestie de nos grands à travers une histoire, à travers un sipour. Mais avant de raconter cette histoire, ce sipour, je voudrais un peu l'expliquer. Pourquoi est-ce que nos nos maîtres sont si humbles, alors que normalement, ils devraient être quand même un petit peu moins humbles que nous, qui sommes petits. Mais plus ils sont grands, plus ils sont importants. Alors, je donne souvent cette image. Imaginons quelqu'un qui survole New York à très haut niveau, à très haute altitude. Il verra New York comme étant un point. Et il se dit, bon, c'est un petit point, un petit village. En fait, lorsqu'il descend, qu'il perd de l'altitude, il se rapproche, il voit que New York, c'est grand, c'est large. Puis lorsqu'il atterrit en dessous de ces gratte-ciels, il est écrasé par l'immensité de ces maisons, de ces bâtisses, et puis aussi de la grandeur de cette ville. Lorsqu'on est loin de la vérité, de la Torah, d'Hachem, on a l'impression que c'est bon, la Torah, facile, bon, qu'est-ce que c'est ? Mais lorsqu'on s'en rapproche, et plus on s'en rapproche, et plus on comprend son immensité, sa grandeur, et combien on est petit face à la sagesse divine. Eh bien, je vais vous donner une image d'un grand mec qui s'appelle Rav Moshe Feinstein, un des grands décisionnaires qui habitait aux États-Unis et qui est décédé en 1985 ou 86, et qui a marqué son temps parce qu'il était d'une disponibilité et justement d'une humilité incroyable. Il se rendait disponible pour tout le monde. Je raconte une première histoire. Lorsqu'il est niftar, la semaine où il est niftar, le vendredi, juste après son décès, il y a une femme qui appelle et qui demande à parler au Rav. Et on lui annonce que le Rav est décédé. Et à ce moment-là, elle dit « Alors donnez-moi l'horaire du Shabbat, l'entrée du Shabbat. » Alors on lui dit « Bon, vous avez peut-être un calendrier, c'est la peine de nous demander à nous l'horaire du Shabbat. » Il dit « Je ne comprends pas. Voilà des années que j'appelle le Rav tous les vendredis pour lui demander l'heure de l'entrée de Shabbat. Il ne m'a jamais dit que je pouvais regarder dans mon calendrier. » Avoir cette disponibilité et répondre à des questions aussi simples que l'heure de l'entrée de Shabbat montre un des aspects de sa personnalité. Mais je voudrais raconter une autre histoire. Le Rav Moshe Feinstein était dans une réunion des grands maîtres des États-Unis pour des décisions qui étaient liées à l'orientation du judaïsme américain. Après cette réunion, donc qui a eu lieu le soir, il dit à son chauffeur de l'amener dans un mariage. Et le chauffeur lui demande « Est-ce que c'est de votre famille ?» Le Rav Moshe Feinstein répond « Non, non, c'est pas un membre de ma famille. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pas amené ma femme. C'est pas quelqu'un de la famille, je suis seul. » Il arrive dans la salle et il rencontre le père du Khatan. Le père du Khatan est très impressionné. Il se dit « Quoi, vous, Rav Moshe Feinstein qui vient, c'est évidemment le branle-bas de combat dans la salle. Tout le monde va demander la beracha, saluer le Rav. » Et il demande « Mais Rav, on est très heureux de votre venue, mais vous connaissez qui ?» Et il dit « Je suis de la famille de la Kala. » Là, ils sont très honorés d'avoir une belle fille, il s'agit du père du Khatan, une belle fille qui est de la famille du grand maître de la génération. Et donc on lui fait tous les honneurs, on le met évidemment à la table d'honneur, on danse avec lui. Et avant de partir, il demande à parler à la Kala. Donc elle vient près de la Mechitsa, puisque c'est un mariage très religieux, séparation totale. Donc elle va près de la Mechitsa, parle au Rav quelques instants, et il s'en va. Alors le chauffeur, il ose poser la question. Rav dit « Écoutez, Rav, dans la voiture, vous m'avez dit que c'est pas votre famille, et là, vous avez dit le contraire au père du Khatan. » Et le Rav, de répondre, il dit « Écoute, je vais travailler d'expliquer. Cette jeune fille, je la connais pas. Ni la famille du Khatan, ni la famille de la Kala, je ne connais personne. En fait, cette jeune fille, cette Kala est venue me demander une bénédiction avant son mariage, ce que je lui ai donné. Lorsqu'elle est sortie de mon bureau, elle a éclaté en sanglots. Et ma femme était très touchée, très émue. Et elle lui a dit « Écoutez, il faut que je retourne chez le Rav, j'ai quelque chose à lui demander. » Donc la première fois, elle n'a pas osé, puis maintenant elle retourne dans le bureau du Rav et elle dit « Rav, je voudrais vous demander un service. » Voilà, moi je suis une jeune Kala, je vais me marier bientôt. J'habite à Jérusalem. Mon mari habite aux États-Unis. Notre famille est très très pauvre. La famille du Khatan est très riche. Et ils ont décidé, ils ont très gentiment proposé de payer toutes les dépenses du mariage. Mais par contre, ils ont demandé que le mariage ait lieu aux États-Unis. Alors je suis très embêté parce que je vais voir peut-être mes parents. Je ne suis pas sûr que mes frères et sœurs aient les moyens de venir. Évidemment, personne d'autre de la famille ne pourra venir. Je serai seul, alors que du côté du Khatan, il y aura une salle entière et je vais me sentir très très mal alors que c'est le jour de mon mariage, un jour où je suis très heureuse et en même temps, peiné de ne pas avoir mes proches. Alors je vous demandais à vous, Rav, de venir en mon mariage et de dire que vous êtes de ma famille. Alors le Rav dit, mais je ne suis pas de votre famille. Il dit, mais oui, on est tous de la même famille, puisqu'on est tous les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors le Rav dit, bon, d'accord, j'accepte. Et donc ce Rav va prendre de son temps si précieux, où il est demandé, extrêmement sollicité de par tout le monde, il va prendre son temps, faire semblant qu'il est de la famille. Il va rester de longues minutes. D'habitude, il reste très peu de temps, et là, il reste un peu plus longtemps. Et il va dire à tout le monde, je suis de la famille de la Kala, pour tout simplement redorer son blason, parce que, et tout simplement lui donner du chizouk, des forces. Parce que, genre, il y a le Gadol Hador qui est de son côté à elle, et ça lui a donné beaucoup de simra le jour de son mariage, alors qu'elle était peinée de ne pas avoir toute sa famille avec elle, et ni ses amis. Et lorsque je suis parti, je me suis dit, oui, mais du côté des hommes, ils ont vu que j'étais là, mais peut-être que la Kala va se poser la question. Est-ce qu'il est venu, pas venu? Donc je suis venu près de la Mechitza, la séparation entre les hommes et les femmes, pour lui dire, j'étais là, pour qu'elle sache que j'ai tenu ma promesse et qu'elle ait encore plus rapidement la joie de savoir que quelqu'un est venu de son côté et qui lui a apporté tant de kavod, d'honneur, de respect. Et voilà pourquoi je suis là. J'ai dit que je suis de la famille, je ne suis pas de la famille, mais c'est comme tout, c'est comme si. Je voudrais vous dire que des histoires sur ce Rav, de cette disponibilité, de cette simplicité, du fait qu'il était tout simplement au service, il est là pour aider ses frères, alors que, je répète, c'était un prince de la Torah. Il faut savoir qu'il a tranché des questions sur tous les sujets de Torah les plus complexes, de tête, avec une dextérité, une force qui a forcé l'admiration de nous tous. J'ai eu le mérite d'assister à son enterrement qui a eu lieu à Jérusalem. C'était un jour de Pourim et nous étions là-bas, des centaines de milliers de personnes, avec à nos têtes tous les grands maîtres de la génération. C'était un moment incroyable de voir tous les plus grands maîtres de la génération assister à cet enterrement. Et à ce moment-là, le Rav Shach, le Rav Tzadik Livracha, a dit ces mots. Il a dit, aujourd'hui c'est Pourim, et chez Ashkenazim, le jour de Pourim, on s'habille en habit de Shabbat. Nous sommes venus à un enterrement avec des habits de Shabbat, parce qu'en fait, c'est un grand jour de fête. Ça s'appelle une Inoula, parce qu'une grande Neshama, une grande âme retourne vers le trône céleste. Et c'est un jour, quelque part, de fête là-haut, parce qu'on accueille la rose parmi les épines. Et c'était donc cet homme qui s'appelait Moshe, comme Moshe Rabbeinu, qui était un enseignant, un grand Rav, comme Moshe Rabbeinu, et qui était un Av d'une grande simplicité, comme Moshe Rabbeinu, qui pouvait répondre à toutes les questions de toutes sortes de personnes, sans jamais dire « c'est pas de mon rang, j'ai pas le temps, je suis pas disponible ». Et voilà, ça c'est nos grands maîtres. Plus ils sont grands, plus ils sont humbles, parce qu'ils se rendent compte de notre petitesse face à Hachem, et comprendre tout simplement qu'il essaie de se comparer à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu nous donne l'exemple d'humilité, nous devons lui ressembler, et c'est ce que Hachem lui fait craquer. Hachem est ce qu'il aime. Atem ha-me'at, me'ma'atim et atzmachem. Je vous donne des pouvoirs, je vous donne une grande place dans ce monde, et plus je vous le donne, plus vous êtes humble. Voilà un petit peu le message que je voulais transmettre dans cette veille de Shabbat. Benachnou ma, que sommes-nous, dit Moshe Rabbeinu. Qui sommes-nous? Il ne trouve absolument même pas une comparaison avec quoi que ce soit. Ils disent, nous sommes rien. Voilà le message que je voulais qu'on essaye tous d'intégrer et de pratiquer en disant, franchement, demander des honneurs, d'essayer de se mettre en avant. Tout ça, ça n'a aucun sens. Et lorsque Rav Steinman, on lui parlait du kavod, il disait, oui, le kavod, il faut le rechercher, l'honneur. Mais les honneurs, il faut les rechercher pour le monde futur. Les honneurs donnés dans le monde futur sont des vrais honneurs et des honneurs qui ressemblent, qui sont donnés pour des bonnes raisons. Les honneurs qui sont donnés dans ce monde sont des honneurs factices, souvent qui sont hypocrites et qui ne correspondent à rien. Essayons d'être zochés, d'avoir le mérite, d'avoir les grands honneurs à notre arrivée dans le monde futur, et parce que nous aurons fait un gros travail dans ce monde pour servir Hachem avec authenticité et avec humilité. Shabbat shalom à tous.
Shabbat shalom Rav Guez, je voudrais vous poser une question avant de vous laisser libre. C'est pas Rav Moshe Feinstein qui a décidé que le Coca-Cola était cachère?
Alors, Rav Moshe Feinstein a reçu une visite des responsables de Coca-Cola. Vous savez que la recette du Coca-Cola est secrète. Donc, ils sont venus le voir en lui donnant tous les ingrédients, peut-être pas en lui donnant tous les...
Les ingrédients,
oui. Oui, mais par lui donner en tout la recette, parce que la recette, c'est aussi le nombre de grammes de chaque produit. Donc il a eu la liste de tout ce qu'il y avait dans le Coca-Cola, et donc il a pu dire que c'était cachère, parce qu'on lui a révélé à lui la liste exhaustive des produits, et donc il a pu trancher, effectivement. Et une deuxième chose qui est très connue, c'est le lait non surveillé, mais je précise que le Rav Nissim Ribivoz, qui était le Dayan de Paris, m'a dit, même si le Rav Moshe Feinstein a dit certaines choses sur le lait non surveillé, je rappelle que Rav Moshe Feinstein lui-même ne buvait que du lait surveillé, et qu'en France, c'est pas évident de s'appuyer sur cette permission, mais encore une fois, il y en a qui permettent, et, mais c'est vrai qu'il a été très connu pour ça, mais en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu ces responsables, il a énormément pesé dans toutes les décisions modernes. Il avait une maîtrise absolument phénoménale, phénoménale de la Torah, dans les moindres détails, mais en se rappelant des chiffres, des pages, des virgules, enfin, impressionnant, très très impressionnant, sa maîtrise de la Torah.
Rav Eman m'a raconté qu'un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit « Qu'est-ce que ça fait de connaître d'être le seul homme au monde, à part la direction de Coca-Cola, à connaître la recette
la
du Coca-Cola ?» Alors il lui a dit « Mais je ne la connais pas. »
Il a dit « Je ne la connais pas ?»
Non, il a dit « Mais je ne la connais pas. » C'est Rav Eman qui m'a raconté. Alors il dit « Mais bon, vous êtes modeste, justement, bon, ben, ça va, vous la connaissez. » Il a dit « Non, parce que je ne connais pas les proportions. »
Voilà, c'est ça ce que...
Et il a répété, et il a ajouté, mais c'est comme ça pour tout dans la vie. Si tu connais pas les proportions, tu connais rien. Y compris un homme. Tout le monde est un peu colérique. Tout le monde est un peu jaloux. Tout le monde est un peu... Si tu connais pas les proportions, tu connais pas la personne. Et je voulais aussi vous poser une autre question. Il conseillait votre beau-père ?
Non, parce que mon beau-père, à ma connaissance, l'a rencontré qu'une fois. Ouais. Et il allait voir d'autres rabbinim.
Non,
il allait voir Rochard. Uh-huh. Et il allait voir Rav Moshe Soloveitchik d'abord. Uh-huh. Et lorsqu'il est décédé, il allait voir aussi Rav Freiking. Et Rochard, Rav Moshe Shapira aussi à la fin.
Rav Gay, j'espère que je n'ai pas été indiscret. Non, parce que je sais pas. Et je vous remercie. Bonsoir à vous, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à toutes Shabbat Shalom.